Radio de la Paix, il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures, Didier Blé.
Excellent réveil à tous, merci de nous retrouver. Bienvenue à cette première édition. Les personnes n'ayant aucun document d'état civil peuvent régulariser leur situation dans les mairies et sous-préfectures partout en Côte d'Ivoire. Avant avril 2025, l'ONICI était récemment à Dalloan pour en parler au cours d'une rencontre avec les populations. À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, la FENEPLACI, Fédération Nationale des Établissements Privés Laïcs d'Enseignement et de Formation de Côte d'Ivoire, donne de la voix. Elle réclame à l'État des arriérés de frais de scolarité. Sur le continent Burkina Faso, une base des volontaires pour la défense de la patrie attaquée dans le nord, une dizaine de personnes décédées. Et puis vous aurez la revue des titres présentée par Francis Cassis. Et puis en fin de journal, l'invité de la rédaction ce lundi est le chef de l'équipe au Sahel de l'étude de l'Institut d'études de sécurité. Interrogé par Junior Cardin, Rodrigue Conet abordera la question des attaques meurtrières dans certains états du Sahel. Voilà pour le sommaire. Monsieur, bonjour, bienvenue à tous. L'ONECI, Office national de l'état civil de Côte d'Ivoire, a organisé récemment à la préfecture de Daloa une rencontre d'information et de sensibilisation sur la loi spéciale de déclaration de naissance et la procédure de rétablissement d'identité en faveur des populations. Jean-Noël Kwame.
Le délégué régional de l'Office national de l'état civil, Léon Moto, a expliqué l'importance de cette loi spéciale de déclaration de naissance et de rétablissement d'identité en faveur des populations.
La loi 863 du 19 novembre 2018 institue une procédure spéciale de déclaration de naissance, de rétablissement d'identité et de transcription date de naissance. Les personnes concernées, les personnes qui n'ont jamais été déclarées à l'état civil, une personne qui a grandi, qui n'a jamais eu de papier. Le deuxième aspect, toutes les personnes qui ont eu à utiliser un acte de naissance qui n'est pas le leur ou un faux acte de naissance, qui ont eu des diplômes, qui travaillent même avec ces documents. Et troisième catégorie, des personnes qui ont un acte de naissance même pour plusieurs raisons, on ne retrouve plus le double des registres.
Le délégué régional de l'ONECI a également fait des précisions sur la procédure permettant de se faire établir un acte de naissance, peu importe son lieu de résidence en Côte d'Ivoire.
Il faut savoir que le sous-préfet ou le maire a déjà désigné des personnes dans les villages ou les campements. Donc, ils vont soit vers un chef du village, un leader communautaire, un président des jeunes désigné, ou ces personnes se dirigent directement à la mairie ou à la sous-préfecture. Et après, nous prenons le relais. Nous avons décidé, à travers l'ONECI, de pouvoir alléger la tâche à nos populations.
Les populations n'ayant aucun acte de naissance ont jusqu'au 4 avril 2025 pour régulariser leur situation, a indiqué le délégué régional de l'Office national de l'état civil dans le Haut-Sassandra. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, la FENEPLACI, Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire donne de la voix pour réclamer le paiement des arriérés de frais de scolarité dus par l'État de Côte d'Ivoire. Là-dessus, on écoute au Effinistan Betty, le porte-parole de la FENEPLACI.
Jusqu'à ce jour, il se trouve que les paiements de l'année 2022-2023 qui ont débuté le 23 juillet ont été interrompus et il se trouve qu'à quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, il y a des établissements qui n'ont pas encore perçu le solde de l'année scolaire 2022-2023. Et aussi, à la date d'aujourd'hui, les décisions de paiement qui attestent que pour une année scolaire donnée, le montant dû à l'établissement, c'est-à-dire la décision de paiement de l'année scolaire 2023-2024, jusqu'à ce jour, ces décisions de paiement ne sont pas encore disponibles et remises au fondateur.
Face à cette situation, qu'est-ce que vous attendez de l'État?
À quelques jours de la nouvelle année scolaire, ces établissements qui n'ont pas encore perçu le sort de leur scolarité de 2022-2023 puissent les avoir le plus rapidement possible pour leur permettre d'entamer une bonne rentrée scolaire. Et ensuite, que les décisions de paiement de l'année scolaire 2023-2024 qui sont achevées depuis longtemps soient mises à la disposition des fondateurs le plus rapidement possible pour qu'il y ait une quiétude dans la reprise de cette année scolaire.
Vous écoutez à l'instant Effinistan Betty, porte-parole de la FENEPLACI, interrogée par Constant Maillet, et puis rappelons que le service de communication du ministère de tutelle que nous avons pu joindre pour un souci d'équilibre nous a souligné que cette question pourra être adressée après la rentrée prévue le 9 septembre 2024. Les clés des nouvelles infrastructures réalisées à San Pedro par le PIDUCAS, le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, ont été remises officiellement le vendredi 30 août 2024. Ces réalisations visent à améliorer la compétitivité de la commune de San Pedro et booster l'économie locale. Kofi Benson.
Démarré en 2017, le PIDUCAS, le projet d'infrastructure pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires a réalisé plusieurs projets au profit des populations de San Pedro. Pour Ekpini Gilbert, coordonnateur du PIDUCAS, ces infrastructures financées par la Banque mondiale et l'État de Côte d'Ivoire méritent d'être bien entretenues.
Le PIDUCAS a construit 5640 km de route et en a réhabilité 7398. Aussi, la commune de San Pedro a bénéficié de la construction d'une aire de stationnement des camions poids lourds et assuré une meilleure gestion de l'accès des camions dans la zone portuaire. L'aménagement de la locodrome au quartier Barlo, l'espace dénommé Brédé Nicolas, l'espace sportif Moro-Moriféré. Tous les investissements du PIDUCAS dans la commune de San Pedro s'élèvent à environ 21 milliards de francs CFA, dans le seul but d'améliorer la compétitivité de la commune de San Pedro et de booster l'économie locale. Si demain, les équipes de la Banque mondiale arrivent ici à San Pedro, qui trouvent l'espace Brédé Nicolas dans un état délabré, les premières personnes qui seront interpellées, ce sera d'abord nous. Mais ce sera aussi l'État de Côte d'Ivoire qui aura investi de l'argent pour mettre en œuvre des espaces qui, non seulement, n'ont pas été bien exploités, mais qui ne donneront pas à notre pays.
Pour Keita Sissé Nakaridja, maire de San Pedro, un bon usage de ces infrastructures sera assuré.
Je ne peux que rassurer PIDUCAS. En même temps, rassurer la Banque mondiale que toutes ces infrastructures qui viennent de nous remettre, nous en ferons bon usage.
Les populations devront s'approprier ces projets pour atteindre les objectifs. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
Parlons de lutte contre la désertification. Les ONG engagées dans ce combat doivent se former davantage et maîtriser les processus d'accréditation auprès des Nations Unies en vue de saisir les opportunités dans ce secteur. C'est le message qu'a lancé le représentant Afrique des groupes des organisations de la société civile de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Et c'était lors d'une conférence de presse qui a eu lieu jeudi 29 août 2024 à Abidjan. Ghislain Koulibaly.
Cette rencontre coïncide avec la 10e conférence régionale des ministres africains en charge de l'environnement, AMSEN, prévue à Abidjan du 30 août au 6 septembre. L'idée est de promouvoir la synergie entre les pouvoirs publics et les organisations de la société civile. Charles Balogun, représentant Afrique des ONG accréditées auprès de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification.
Comment travailler en symbiose avec la société civile pour qu'ensemble on puisse remonter l'information. Aujourd'hui, vous voyez, elles sont tellement nombreuses, elles ont tellement de bonnes pratiques sur le terrain. Mais comment est-ce que l'État, au haut sommet, peut-être représenté par le point focal, comment arrive à tirer profit de ces bonnes pratiques sur le terrain pour peut-être implémenter son rapport qu'il va envoyer au niveau de la Convention?
Et pour que cette étroite collaboration s'établisse, les ONG doivent continuellement renforcer leurs capacités sur des notions clés.
Notre travail, c'est d'abord de parler de la Convention et de les appuyer dans le sens de la formation, dans tout ce qu'il y a comme activité autour des questions de dégradation de sol, des questions de restauration de sol et tout ce qu'il y a aujourd'hui comme solution novatrice dans la capacité de pouvoir restaurer tout ce que nous avons comme terre.
La communication autour des questions telles que la dégradation des terres s'impose et la société civile a un grand rôle à jouer dans ce sens, précise Charles Balogun, qui est aussi président de l'ONG Espérance Afrique.
La préoccupation de la désertification est une préoccupation est importante. Parce que si nous n'avons plus les terres fertiles, on ne va plus manger.
Notons que selon la FAO, 319 millions d'hectares sont menacés de désertification en Afrique.
Actualité sur le continent. En Burkina Faso, une base de volontaires pour la défense de la patrie attaquée dans le nord. Des groupes armés terroristes ont pris d'assaut les communes de Yaoundé dans la région du centre-est du Burkina Faso et une base des volontaires pour la défense de la patrie à une trentaine de kilomètres de la ville de Waïgouya. Des volontaires et civils ont perdu la vie dans ces différentes attaques. Un groupe d'hommes armés a lancé un assaut contre ces volontaires. Malgré une tentative de riposte, au moins 13 personnes ont perdu la vie. Et puis en RDC, République démocratique du Congo, épicentre mondial du Mpox, la rentrée scolaire dans l'incertitude est sous menace de propagation du virus qui a déjà fait 700 morts, près de 700 morts dans le pays. Les écoles, les classes des écoles primaires, publiques sont bondées. Et vendredi, lors de la réunion du Conseil des ministres, le gouvernement a affirmé qu'il n'y a pas de raison d'envisager le report de la rentrée scolaire. Certains parents s'inquiètent et pourraient retenir leurs enfants à la maison, mais David Diatézois, président de l'Association nationale les parents d'élèves, un autre message à délivrer. C'est la paix dans l'âme que nous enverrons les enfants ce 2 septembre à l'école. Sans plus tarder, nous retrouvons pour la revue des titres Francis Cassi. Francis, bonjour.
Bonjour Didier, bonjour à tous. Il est de retour, le président ivoirien Alassane Ouattara, après un moment d'absence du pays. C'est par ce sujet que nous ouvrons notre revue des titres de vos journaux de ce lundi. Après un séjour privé en France, le chef de l'État a regagné la Côte d'Ivoire hier. Titre à l'unisson, le Patriote et Fraternité Matin. On note aussi à la une de vos journaux d'aujourd'hui que la réforme de la CEI, tant souhaitée par l'opposition, pourrait se faire, considérant cette manchette-ci de Le Bélier intrépide. Présidentielle 2025 CEI, l'audit de la liste électorale s'impose vers une réforme totale de l'appareil électoral. Et au sujet de cette élection présidentielle d'octobre 2025, les trois grands partis ivoiriens se donnent actuellement les moyens pour la remporter. Et au sujet du RHDP, le parti au pouvoir, l'expression écrit « Présidentielle 2025, révision de la liste électorale, comment les partis politiques préparent l'opération, le RHDP prend de l'avance. » Quand concernant le PDCI, derrière un monde cite ainsi un cadre de ce parti. Candidature PDCI à la présidentielle 2025, toute autre candidature sans l'accord du Congrès est en contradiction avec le consensus. Déclaration qui donne du grain à moudre à Le Patriote avec ce commentaire. Convention du PDCI, un complot contre Jean Lubillon dénoncé. Et le temps, lui, d'indiquer comment le PPACI entend gagner ce scrutin. Pour la victoire du PPACI en 2025, les deux types d'actions à mener, les précisions de Danon Djedjé. Et puis, en lien avec cette élection présidentielle de 2025, l'appel de Laurent Gbagbo à l'union de l'opposition reçoit un écho favorable de Soulé de Paris, cyberactiviste pro-Soro. Car ce dernier dit sur Génération Nouvelle, « L'union de l'opposition contre le régime Ouattara n'est pas une illusion. Se mettre ensemble contre le RHDP est dans l'intérêt du peuple ivoirien. » Et puis, terminons notre revue des titres de vos tabloïdes de ce 2 septembre par ce regard croisé de trois d'entre eux sur la Côte d'Ivoire. Situation sociopolitique, Dr Kone Katina PPACI, le pays va très mal. Lit-on à la une de l'Inter. A contrario, Le Patriote annonce dynamisme économique et commercial en Afrique. La Côte d'Ivoire classée première nation. C'est ce que fait aussi Fraternité Matin qui, au sujet de la protection sociale, rapporte ainsi Adama Camara. La CEMU est la plus belle des réalisations du président Ouattara. Merci et bonne lecture de vos journaux.
Merci également à vous, Francis Cassi. À présent, notre invité de la rédaction pour refermer ce journal est le chef de l'équipe du Sahel, l'équipe au Sahel, l'Institut d'études de sécurité. Il aborde la question des attaques meurtrières répétées de certains territoires dans les États du Sahel. Rodrigue Fayrama Kone répond aux questions de Julien Cardin.
Rodrigue Kone Fayrama, bonjour.
Bonjour.
Depuis quelque temps, l'on assiste à des attaques meurtrières répétées des territoires au Burkina Faso, au Mali et puis à un degré moindre au Niger. Ces trois États du Sahel, comment vous expliquez ces nombreuses attaques?
Bon, on va dire qu'il y a eu une intensification un peu de la lutte armée contre les groupes terroristes depuis 2 ans. Les États sahéliens ont intensifié leur lutte et donc du coup, nous assistons à une forme également d'adaptation et de réaction de ces groupes-là vis-à-vis des attaques et des armées. Donc, cette intensification-là se traduit par un changement notable qu'on observe par le ciblage également des civils, et des communautés qui sont considérées parfois par ces groupes-là comme des alliés des armées nationales qui les attaquent. D'autre part, on voit aussi que ces groupes-là tentent également de maîtriser la communication en faisant étalage de leurs attaques sur les réseaux sociaux.
Quand on sait que ces pays sont dirigés par des régimes militaires qui sont arrivés au pouvoir en arguant donc du fait qu'il y a des problèmes de sécurité, est-ce qu'on peut dire que ces régimes sont à bout de souffle?
On ne peut pas forcément dire que ces régimes sont à bout de souffle. Hein. Il faut reconnaître qu'avant l'arrivée de ces militaires à la tête de ces États avaient de très faibles capacités au niveau militaire. Ces régimes ont tenté de rehausser donc les équipements, le recrutement et la stratégie mise en place pour lutter contre les groupes-là. Donc il y a eu une évolution au niveau de la capacitation de ces armées, mais puisqu'il y a beaucoup plus d'offensives, donc beaucoup plus de réactivité, on se rend compte que l'action militarisée présente également quelques limites.
Mais comparativement à la situation d'avant l'arrivée de ces régimes au pouvoir, est-ce qu'on peut dire que les choses sont contenues?
Oui, il faut peut-être une analyse beaucoup plus fine et plus complexe de la situation. Il ne faut pas faire une comparaison simple en disant que c'était mieux avant ou c'est pire aujourd'hui. Il faut savoir que le rapport de force a également changé. Il y avait véritablement un contrôle des groupes armés sur ces territoires et certaines zones. Et quand les États ont décidé de relancer des offensives pour récupérer ces territoires, on sent beaucoup plus donc une intensification des combats. Et cela ne veut pas dire qu'avant, ils maîtrisaient mieux ces territoires, seulement ils n'avaient même pas du tout le contrôle de ces territoires. Mais est-ce que véritablement cette action militaire a des résultats probants? On peut toujours questionner.
Vous avez parlé des réseaux sociaux. Qu'on se situe dans un axe ou dans l'autre, apparemment la communication bat son plein à travers donc les offensives et les réactions.
Oui, tout à fait. La communication en temps de guerre est une communication bien particulière et malheureusement, nous sommes aussi dans un contexte où les réseaux sociaux ont donné beaucoup plus de possibilités à une large palette de personnes qui, sans communication maîtrisée, peuvent également diffuser de l'information, pas toujours vérifiée à sa source. Ce qui est certain, on voit une intensification des violences sur le terrain, à la fois des massacres importants de populations qui sont menées d'un côté parfois par des groupes terroristes, mais également par certaines armées. Et cela est rapporté par des sources indépendantes parfois, mais cela doit interpeller l'ensemble des acteurs pour travailler à ce qu'il y ait une grande protection des civils à cette escalade de violence.
Malgré ça, on entend quand même les autorités de ces pays défendre le fait qu'il y a des avancées dans l'aspect sécuritaire.
Oui, comme je l'ai dit, quand on compare le niveau auquel ces armées étaient au départ avec le niveau atteint en termes d'équipement, en termes de renforcement, il y a certes une avancée seulement. Comme on le dit, l'action militaire pour ce type de menace sécuritaire est insuffisante. Il faut la compléter avec d'autres approches en termes, je pourrais dire, de développement, d'approche humanitaire, de protection des civils, de négociation, pour travailler à créer des formes de pacification au-delà de l'action militaire.
Donc, il y a quelque chose à faire aujourd'hui pour mettre fin à cet imbroglio.
Tout à fait, parce qu'il faut savoir que ces États ont fait face à une menace auquel leurs armées n'étaient pas du tout préparées. 10 ans d'insécurité au Sahel, ces armées tentent de reprendre l'initiative, renforcer les capacités. Cela s'accompagne forcément avec un ensemble de défis majeurs. Et les dirigeants sont conscients de ces défis, mais ils doivent être conscients encore des plus grands enjeux de stabilité durable. L'action militaire ne suffira pas, d'autant plus qu'elle peut être malheureusement à l'origine de l'implantation aussi des crises futures si elle n'est pas maîtrisée.
Donc que faire?
Nous pensons qu'il serait important que ces États-là puissent réfléchir à travailler au-delà, comme j'ai dit, de l'action militaire. Il y a des exemples très intéressants au Niger, par exemple. Il y a eu des approches de dialogue au Burkina il y a quelques années, au Mali aussi. Donc parfois, ce type de dialogue au niveau local arrive en mobilisant les chefs de communauté à apaiser les situations et à créer plus de stabilité pour les protections.
Rodrigue Conné, merci beaucoup.
Merci.
Invité de la rédaction ce lundi, Rodrigue Conné, il est le chef de l'équipe au Sahel de l'Institut d'études de sécurité. Il aborda la question des attaques au Sahel, interrogé par Junior Cardin. C'est la fin de ce 7h, le rappel des titres. Les personnes n'ayant reçu aucun document, d'état civil peuvent régulariser leur situation dans les mairies et les sous-préfectures partout en Côte d'Ivoire avant avril 2025. L'ONICI était récemment à Daloa pour en parler. À quelques jours de la rentrée scolaire 2024-2025, la FENEPLACI, Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire, donne de la voix. Elle réclame à l'État des arriérés de frais de scolarité. Et puis au Burkina Faso, une base de volontaires pour la défense de la patrie attaquée dans le nord. Nous serons là à 8h pour la deuxième édition. D'ici là, retrouvez Sonia Nzian pour les Matins de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.